Je m'appelle Nungama, fille de Feu Jeans Mathieu et de Ngéo Tapia. Née en 1949 à Bangou, je n'ai connu que l'histoire de mon père qui était un religieux très très zélé à l'église. On m'a dit qu'il était maître du Coran de tout un village, en tout cas d'un plus grand quartier du village. Donc il commençait à rythmer la louange. Sur 2-3 kilomètres, lui seul, il courait, il descendait, il montait. Comme j'ai pas eu la grâce de connaître mon père, j'ai grandi chez son grand frère, qui était un vieux colon, qui a travaillé avec les colons. Il était infirmier dans le temps. Et il était, mon oncle était aussi religieux, dont ma grand-mère avait 3 garçons, tous des religieux, qui avaient des moyens financiers et ils n'ont pas pu épouser 2 femmes parce qu'ils étaient des religieux, alors que leurs concitoyens étaient tous polygames. Mais les enfants de ma grand-mère, non. Je parle de ma grand-mère paternelle. Donc, il paraît que quand mon père mourait, il avait dit à la petite sœur de ma mère, donc à ma tante, que je te donne ta fille. Donc, je suis allée chez ma tante. On vivait en Consamba, Cameroun. Comme je fréquentais à l'école catholique, j'ai fait le catéchisme. Et je lui disais, non, ma tante, tu es même protestant, mais moi, je n'irai pas à l'église protestante. Parce que l'église protestante n'est pas belle, elle n'est pas bien construite. Je vais aller à l'église catholique parce que je trouve qu'elle est trop belle. Donc, mon histoire d'anecdote que je veux raconter ici, c'est que à l'église catholique, on baptisait les enfants à 8 ans. Et juste quand j'avais 8 ans, on m'a baptisé. Et il se passait qu'on se baptisait le vendredi, le samedi, et on faisait la première communion le dimanche. On m'a baptisé samedi. Et la veille de mon baptême, je me suis mise à genoux à côté de mon lit. J'ai fait une prière à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur mon Dieu, aujourd'hui, on m'a baptisé. Et on me dit que tous mes péchés sont enlevés. Ma prière que je te fais ce soir, c'est que je voudrais que cette nuit je meure. Parce que si je ne meurs pas, je vais rester dans le monde et je vais continuer à voler et je ne pourrai pas aller au ciel. Donc moi, je voulais mourir pour ne plus pécher. Et mon péché, c'était lequel? C'est que ma tante vendait le bois et elle mettait beaucoup de jetons sur la table. Moi, avec l'esprit d'un enfant, je savais que si je prenne 2 ou 3 jetons, elle ne va pas savoir tellement je trouvais beaucoup. Mais même quand je ne prenais qu'un, elle savait toujours. J'ai dit, mon Dieu. Et à l'église catholique, on m'avait dit que le vol, c'est un péché. Que si tu voles, tu vas aller en enfer. Et comme moi, je voulais pas aller en enfer, j'ai fait la prière à Dieu qu'il ne faut pas que je me réveille le matin. Comme ça, moi, je vais aller au paradis et je vivrai éternellement avec Dieu. Mais dommage pour moi que vers 6h le matin, je me suis griffée, j'ai senti que j'étais vivante. J'ai ouvert les yeux, j'ai vu le jour. Donc, j'ai passé toute la journée de la confirmation dans la tristesse. Et les gens s'étonnaient toujours. Pourquoi cet enfant est triste? Sa part de baptême était comment? Je ne m'étais jamais confié. Dans cette histoire que je raconte, je le dis parce que ça fait 3 ans aujourd'hui que j'ai commencé à parler de cette histoire-là. Tellement j'ai vu la main de Dieu dans ma vie. J'ai vu comment Dieu pouvait aimer l'homme, comment Dieu m'a aimé. Dieu m'a aimé dans quel sens? Je me suis mariée à un fils, un ancien de l'église, mais lui n'avait pas cru. Ses parents ont cru. Et moi, pour le jour qu'il venait me demander la main, il m'a dit, il venait tous les dimanches, connaissant que j'étais la fille d'un religieux, pour qu'on aille à l'église. Et quand on s'était baptisé, marié, il m'a dit, ah, tu m'as pas amené chez les bandits, là, hein. Amène-moi encore, je voulais seulement t'épouser, donc je n'irai plus jamais là-bas. Et mon traumatisme avait commencé là-bas. Donc, j'ai fait longtemps dans le mariage. J'allais à l'église protestante de temps en temps. Je rentrais, mais j'avais toujours une peine dans mon cœur. Je voulais une communion vraiment très approfondie avec Dieu où je ne trouvais pas. Mais mon mari est mort. J'étais trop jeune. Il est mort quand j'avais 45 ans. Et moi, Il y avait mes enfants qui avaient cru, qui fréquentaient les églises pentecôtistes. En ce temps-là, c'était la nouvelle religion qui était arrivée au Cameroun. Et moi-même, dans mon église, j'étais diacre à l'église. Donc, j'étais diacre. Donc, j'étais en service à l'église. Même tout ça, je le faisais parce que j'aimais Dieu, mais je ne le connaissais pas, je ne connaissais pas Dieu. Tout ce que je faisais, c'était charnel. Même quand on chantait, quand je louais souvent, les larmes coulaient, j'avais des chairs, des montées de chairs de poule. Mais tout ça, c'était sensationnel, ce n'était pas quelque chose de profond. Et quand ils m'ont alors amené à l'église pentecôte, je suis rentrée, j'ai dit à mon pasteur que les enfants m'ont amené quelque part. J'ai vu comment on loue Dieu. J'ai vu comment on adore Dieu. Je suis tellement enthousiasmée que je ne veux plus, et que je ne veux plus manquer d'y aller. Je sais pas ce que Dieu en pense. Le pasteur m'a tiré dans le bureau. Il m'a dit, moi, je peux pas t'empêcher d'aller là où tu as senti la paix. Mais fais attention parce que ici au Cameroun, les jeunes ont fait de l'église de Dieu un supermarché. Donc, sois très vigilante. Moi, la vigilance, ça n'existait pas. Moi, je savais que là où on adore, on chante, on danse, Dieu était là. J'avais mis ma confiance en Dieu. J'avais même ouvert des sociétés pour faire des glaces et vendre. J'avais acheté des vélos et les gars devaient livrer la glace avec. Et comme je savais que c'était des chrétiens, ils volaient les vélos, ils venaient me dire, on a volé. Moi, j'avais la pleine foi dans mon corps qu'ils étaient véridiques dans tout ce qu'ils disaient. C'est un jour le pasteur même de l'église pentecôtiste qui m'a dit que ce sont ces gars-là qui te volent. Et je me suis rendu compte que, le peuple confessait Jésus et volait encore. Donc, ainsi de suite, mon cœur a commencé à râler. J'ai commencé à chercher. Je suis partie d'église en église. Je suis même rentrée encore à l'église évangélique. Je n'ai pas senti la paix. Je suis rentrée chez les pentecôtes. Je n'ai pas senti la paix. Mais j'ai connu un homme de Dieu au Cameroun, vraiment, que le Seigneur, je ne sais pas, mais je le dis de tout mon cœur. Cet homme-là, je lui tire le chapeau aujourd'hui parce que j'ai été trésorière dans son église. Il s'appelle le professeur Tanga. J'ai été dans son église assez longtemps. Et aujourd'hui, depuis que j'ai rencontré le Seigneur, j'ai compris que cet homme a connu le Seigneur. Mais qu'il y avait certaines choses qu'il faisait parce que les enfants de Dieu le poussaient à le faire. Moi, j'ai géré la caisse de son église pendant 4 ans. Lui n'avait jamais demandé que tu as combien là dans la caisse. Quand je lui disais même qu'il y a déjà beaucoup d'argent dans la caisse, il dit, maman, laisse ça, on n'est pas là pour ça. Quand un chrétien venait dire, j'ai même un problème de combien, il dit, c'est moi, même si c'est 1 000 euros, il dit, donne l'argent, maman, donne. Même si c'est 1 500, il dit, maman, tu as combien dans la caisse, donne-lui l'argent. Donc lui, il n'avait jamais touché de ses 10 doigts. Les dîmes qu'on donnait, les offrandes, on ne donnait pas les dîmes là-bas, mais on donnait les offrandes qu'on donnait à l'église. Et il y avait même, je ne suis plus bien fixée de la façon où on payait le loyer de l'église. Mais je sais que quand j'observe vraiment aujourd'hui ses œuvres, il me disait toujours que Dieu, Jésus est la plénitude dans une vie. Si tu as Jésus, tu n'as pas besoin de faire les combats spirituels que les gens sont en train de combattre. Il nous disait toujours, tu combats même qui? Tu es en train de combattre l'esprit. L'esprit te voit, tu ne le vois pas. Qui t'a dit d'aller combattre l'esprit? Que c'est Jésus qui combat pour nous. Or, quand j'ai rencontré Christ, ces choses-là me sont revenues à l'esprit et j'ai béni l'Éternel pour cet homme de Dieu. Donc, mon problème est que je rentre au Cameroun, je m'en vais partager sérieusement avec cet homme-là. Mais j'ai fait une rébellion à cet homme. Parce que quand je l'ai rencontré, j'avais déjà fait 11 ans quand mon mari était mort, seul à seul, je servais Dieu. Moi, je dis que je servais Dieu, mais vraiment, je veux dire que je nourrissais ma chair. Je pouvais dire vraiment que je nourrissais ma chair. Et entre-temps, j'ai connu un monsieur où il a été catégorique. Il a dit que, maman, je ne veux pas, je ne veux pas, je ne veux pas. Ça, je ne peux pas accepter que tu fasses chemin avec cet homme. J'ai dit, mais si le Dieu qui m'a gardé depuis 11 ans que mon mari est mort, permet aujourd'hui que mon cœur soit sensible et touché par une chose dans ce monde. Moi, je ne savais même pas que ces choses pouvaient m'arriver. Je ne savais même pas qu'un jour, une situation comme ça pouvait m'arriver. Mais moi, je vois que Dieu dit, donc j'ai commencé à prêcher mon évangile, j'ai dit que on a le droit de refaire sa vie. Si ton mari meurt, après 2 ans, la veuve a le droit de refaire sa vie. Moi, j'ai fait 11 ans. Moi, comme tu ne veux pas que je refasse ma vie, il dit que c'est juste ce que tu dis. Mais cet homme est marié. Tu lui dis que non. Il avait déjà déposé les dossiers de divorce et il m'a montré les dossiers de divorce. Il dit que s'il est vrai, laisse-le d'abord aller divorcer. Je ne voulais rien comprendre. Quand il m'a dit qu'il n'était pas d'accord, je l'aimais beaucoup et je l'obéissais beaucoup. Quand il m'a dit qu'il n'était pas d'accord, la rébellion m'a possédée. Et puis je disais, mais c'est un enfant. Il me donne les ordres comme si j'étais sa bonne. Mais j'avais oublié que c'était mon autorité spirituelle. Et en ce temps-là, j'ai vu que tout l'église s'était révoltée contre moi. Alors par orgueil, J'ai suivi cet homme, j'ai quitté l'église, je suis allée dans une autre église, toujours Pentecôte, là-bas dans cette église. C'était une église vraiment tellement pauvre. Je travaillais, c'est moi qui payais le loyer. En tout cas, j'étais là-bas comme quelqu'un qui soutenait l'église. C'est moi qui payais le loyer, donc quand je n'arrivais pas à payer le loyer de l'église n'était pas payé. Et un jour, je ne sais pas ce qui s'est passé, je sais qu'il y a eu malentendu entre le pasteur et moi. Je suis partie de l'église et puis je suis même allée m'installer avec les Adventistes. Donc j'ai mis très longtemps avec les Adventistes. Mon cœur ne trouvait pas toujours la paix. J'avais toujours soif de Dieu. J'avais toujours soif de Dieu. Et je ne voulais plus que les hommes me dominent. Je ne voulais même plus que les hommes me donnent les ordres. Je disais que mais si le Dieu qui m'a gardé depuis des années, qui m'a protégé de ceci et de cela, les hommes-là étaient où? Donc ça a été comme ça, une très forte rébellion dans mon cœur. Et en 2008, je suis tombée sincèrement malade. On a parlé de toutes sortes de maladies. Pour finir, on s'est arrêté sur l'hépatite C. Donc, tous les soirs, je pleurais, je priais Dieu, je disais, Seigneur, rien n'était impossible. Et puis, je disais, tes jugements sont justes, Seigneur. Je ne peux même pas me fâcher que je souffre. Mais ma supplication et ma prière est que si mon heure est venue, je t'en supplie, j'ai déjà trop souffert. Je ne veux plus continuer cette souffrance. Je veux que tu me prennes, auprès de toi. Quand j'allais même chez, parce qu'au Cameroun, il y avait un système qu'il y a les prophètes qui prient pour les gens, ils guérissent. J'entends qu'il y a n'importe quel prophète, n'importe où. J'y allais à rien. J'allais même chez les gastro-entérobes, rien. Ils disent que oui, mais ton foie n'est pas touché, tes reins ne sont pas touchés, et ton pancréas n'est pas touché. Donc, tu peux vivre avec ça. Mais j'étais dans une souffrance immense qu'on ne pouvait pas imaginer. Je n'avais pas d'appétit, je ne mangeais pas. Je ne faisais rien, je ne faisais que maigrir. À un certain moment, les médecins ont même dit que j'avais la nocturie, la maladie qui fait maigrir les gens. On m'a parlé de tout et de rien. Un jour, le médecin me dit que va faire les examens. Je suis partie faire les examens. Et puis, on me dit de venir chercher le résultat. Je vais chercher le résultat. On me dit, viens dans 2 semaines, je vais dans 2 semaines. On me dit, viens la semaine prochaine, je vais la semaine prochaine. On me dit, viens la 3e semaine, je viens la 3e semaine. On me dit, viens la 4e semaine, je viens la 4e semaine. J'arrive, on me dit, monte au bureau du chef. Quand j'arrive au bureau du chef, tous les analystes étaient là rassemblés. Avant que je n'aille même faire cet examen, en mars, Dieu m'avait dit à 5 heures du matin, ton sang est pur. J'ai dit, Seigneur, le sang de qui est pur? Et je suis malade comme ça. Donc, en mai, je suis partie faire les examens. On m'a reçu jusqu'au mois de juin. Tous les analystes de l'Institut Pasteur du Cameroun étaient au bureau. J'entre au bureau, on dit, mais qui t'a dit que tu étais malade? Je dis que c'est toujours les médecins. Ils disent que le chef se lève, il dit, c'est moi le chef de l'Institut Pasteur du Cameroun. J'ai fait des analyses. J'ai fait, j'ai refait. J'ai pris ton sang, j'ai fait, j'ai refait. Je ne trouve rien. Je dis donc, Dieu m'a guéri. Ils me disent que non, tu es très affaibli. Nous, on ne peut pas dire que tu vas arrêter ton traitement. Parce que si tu arrêtes le traitement, ton système est très, très affaibli. Donc, me voilà, je ressors du bureau. Je dis que, en tout cas, Seigneur, je sais que tu es mon système immunitaire. Tu m'as guéri. Mais frère, je ne peux pas te mentir, j'étais toujours malade. Les gens me disent que, tes enfants sont en Europe, pourquoi tu ne peux pas te soigner? Je leur dis que moi, je suis une femme qui a marché avec Dieu. Même si les hommes ne croient pas que j'ai marché avec Dieu, dans le plus profond de mon cœur, je sais que j'ai marché avec Dieu. Et le Dieu qui guérit en Europe, c'est le même Dieu qu'au Cameroun. Donc moi, je ne pars pas en Europe. Et entre-temps, j'étais avec un des trois sœurs dans la même ville. La plus jeune est morte la première. Elle avait le diabète. L'aînée, qui était l'aînée à moi-même, c'était mes cousines. Elle aussi, elle est morte. J'ai dit que wonderful. Donc, quand l'aînée mourait, là, j'étais vraiment abattue. J'ai dit, et comme j'avais un visa permanent dans mon passeport, j'ai seulement appelé mon fils. J'ai dit que j'arrive. Quand je suis arrivée à Lyon, je suis sortie dans l'avion. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui sais pourquoi je suis à Lyon. Moi, je ne sais pas pourquoi. Parce que du plus profond de mon cœur, je sais que rien n'était impossible. Si tu voulais seulement que je vienne ici avant de mourir, pour qu'on souffre, pour transférer mon corps, toi-même, tu es au contrôle. Donc, je me remets entre tes mains. Quand j'ai dit ça, j'étais au rang du contrôle de passeport. Quand on a fini de me contrôler, je suis sortie. Mon fils m'a vu. Il dit, maman, c'est toi là-bas, pardonne-moi, je ne savais pas que ton état était comme ça. Donc, on est allé chez mon fils. 3 jours après, je me suis écroulée. Le Samy m'a amené à l'hôpital. J'ai fait, je crois, 3 semaines d'hospitalisation. Après, je suis sortie, je suis allée à la maison. Quand je suis allée à la maison, j'ai commencé à faire le cours de catéchisme aux enfants de ma belle-fille, parce qu'elle est venue en mariage avec ses 4 enfants. Nous étions à la maison. J'ai commencé à les enseigner. Un jour, elle me dit que ne parle plus, ne gronde plus ma fille. Tu crois que on réussit dans la vie toujours seulement par les études? Je lui ai dit que non. Moi, je voulais les enseigner parce que la parole de Dieu dit que enseigne l'enfant selon la voie qu'il suivra quand il sera grand. Et comme en ce temps-là, j'avais encore le reste d'argent que j'avais dans ma poche, chacun, quand il a besoin de 10 euros, je donne 2 euros, je donne 20 euros, je donne 50 euros, je donne. Quand ils se sont rendus compte que je n'avais plus rien, ma belle-fille a commencé l'agression. Elle me dit qu'il faut que j'appelle tous mes enfants. On lui dit quel montant on va lui donner par mois pour qu'elle puisse m'entretenir, sinon elle, ça ne va pas marcher. Ou bien si j'appelle au Cameroun, et la fille qui est dans mon magasin doit lui donner l'argent tous les mois. Moi, je lui ai dit que je n'ai pas l'argent. Même le coup que l'Éternel m'avait donné, avant que je n'arrive ici, j'ai été malade 6 mois. Donc même cet argent-là, moi j'avais tout utilisé, mes économies. Je suis nulle comme tu vois là et je ne peux pas obliger des grandes personnes à imposer une certaine loi. Et bon, il y avait toujours, c'est-à-dire il y avait un genre de tension à la maison. Un jour, il y a une amie qui est venue du Cameroun, elle était chez sa fille à Saint, elle m'appelle. Je lui dis que maman, je viens, on va faire quelques jours avant que je rentre. Donc je dis à mon fils, s'il te plaît, achète-moi le billet du train quand je rentre de là-bas, je vais te rembourser ton argent. Mon Dieu, sa femme a dit, elle, il n'a pas l'argent. J'ai dit non, je ne vous demande pas votre argent, mais je vous supplie seulement de m'acheter le billet. Je veux venir rembourser. Frère, et c'était un autre problème. Elle l'a tout parlé. Après, mon fils est parti acheter le billet du train, il m'a donné. Et sa femme me dit que je ne sais même pas comment on a commencé, parce que je retiens toujours plus le bien qu'on me fait, mais le mal, je ne retiens jamais. Elle a dit qu'elle en a marre, c'est sa maison. Elle a même eu la grâce, j'ai même eu la grâce qu'elle m'ait accepté que je rentre chez elle. Moi, je n'ai pas répondu. Parce que quand je partais du Cameroun, j'ai dit, Seigneur, je n'ai jamais vécu avec une des belles filles. J'ai toujours vécu chez moi. Parce que mon mari, quand il mourait, il me dit, reste dans ta maison. Tu n'as pas fait de fille et tu ne sais pas quelle femme tes fils vont épouser. Donc, après, elle me dit, je ne sais pas, mon fils, quand il vient me donner le billet du train, on a commencé un certain petit dialogue de dispute là. Et puis mon fils me dit, pourquoi tu ne me parles pas comme ça? Je dis, Stéphane, je ne suis pas venu entrer chez le voisin ou chez celui d'en haut ou celui d'en bas. Je suis venu entrer chez toi parce que tu es mon fils. Et la parole de Dieu dit que quand tu gardes un enfant, plus tard l'enfant aussi va te garder. Si je n'étais pas malade, tu ne m'aurais pas vu chez toi. Et je suis fatiguée. Je me suis déjà trop occupée de toi. J'ai dit, l'Éternel te bénira pour tout ce que tu as fait. Parce qu'en ce temps-là, au moins, j'étais fondée sur le Seigneur. Je dis, l'Éternel t'aidera pour tout ce que tu fais. Et je ne sais pas de quoi on parlait, je me rappelle même plus. Parce que vraiment, je suis pas très apte à me rappeler de la méchanceté. La femme dit que tu vas sortir de ma maison. Ton fils, il faut que ton fils et toi, vous sortez de ma maison. Il a été logé. Et elle ne voit pas la femme qui lui parle. Après, je lui dis que c'est le jour-là que je lui ai parlé. Je lui ai dit que, Diane, fais très, très attention. Dans ce monde, il y a des intouchables. Je suis la fille du grand roi. Le jour que tu vas me mettre dehors, je te dis que mon âme ne chancelle et mon cœur ne tremble pas. Le jour-là même, avant que tu ne fermes ta porte, l'Éternel, mon Dieu, va tenir ma main. Jésus va tenir ma main et il va me conduire. Je n'ai pas peur que tu me jettes dehors. Frère, je suis quand même une femme qui a connu un peu de culture, qui est un peu cultivée. Donc, quand je suis, elle m'a dit, tu sors. J'ai dit oui. Elle me dit, tu sors. J'ai dit oui. Non, je n'ai rien dit. Elle dit, est-ce que tu comprends ce que je te dis? Je te dis que tu sors. C'était le 15 janvier, en plein hiver. Je lui dis, je suis seulement malade. Je ne suis pas sourde. Je comprends parfaitement ce que tu es en train de me dire. Je vais sortir. La nuit, là, je n'ai pas dormi. À 5h00, j'ai ouvert ma porte. J'ai porté ma valise. Quand j'ai mis ma valise dehors et j'ai mis mes pieds dehors, elle a claqué la porte derrière mon dos. Et quand la porte a fait brave, un voisin a ouvert sa porte. Bam. Il me dit, madame, vous voulez que je vous aide? Le voisin n'était même pas proche de mon fils parce qu'il était opposé. C'est comme dans les immeubles, dans les HLM en Lyon. Les HLM de France. Donc, il était dans le couloir très bon. Et c'est parce que si c'était celui d'à côté, j'allais dire que peut-être il a suivi un peu les discussions. Il ouvre la porte, madame, je vous aide. Je dis que merci beaucoup. J'étais affaiblie, amoindrie. Ils étaient au 5e étage, donc sans ascenseur, donc je ne pouvais même pas porter la valise pour descendre. Le monsieur a pris ma valise. Il m'a mise la récuse. J'ai attendu le bus, le bus est venu. Je suis allée à la gare, j'ai pris le train, je suis allée à Saint voir mon ami. On a fait peut-être presque un mois, on a fait peut-être 3 semaines là-bas, parler de tout et de rien, mais je ne lui ai pas raconté mon problème. Moi, je sais seulement que la dernière semaine où je devais rentrer à Lyon parce que j'avais rendez-vous à l'hôpital, j'ai dit à mon ami que je suis en train de rentrer comme ça, je ne sais même pas où je pars. La femme de mon fils m'a mis dehors. Elle dit non, tu blagues. Elle dit qu'elle est de quel village? J'ai dit du même village que mon fils. Elle dit, mais tu blagues. J'ai dit que non, je ne blague pas, c'est une Camerounaise. Elle dit, ça s'est passé comment? J'ai dit, tu sais, je ne veux pas en faire de commentaires. On va en parler même quand Dieu aura fait ce qu'il a voulu que je vienne ici, il fait. Parce que je n'avais jamais désiré et souhaité mettre mes pieds en Europe. Mon mari est mort, j'avais 45 ans. Toutes mes amies, même les aînés, les cadettes, ils sont tous allés en Europe. On me conseillait même d'aller aussi en Europe, d'aller me chercher en Europe. J'ai dit que non, 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 non. Je n'ai pas la vie de l'Europe, ça ne m'intéresse pas. Mais j'avais un problème. Pour que je me lève du pays pour venir ici à l'Europe, c'est parce que j'ai demandé à Dieu mille et une fois que je voulais mourir. Je ne mourrais pas. Et je souffrais. Je pouvais faire 2 semaines sans dormir. Je souffrais vraiment comme si quelqu'un, si l'enfer existe, je ne crois pas que la souffrance de l'enfer était comme celle-là. Donc, j'ai dit à mon ami qu'on en parlera, mais pour l'instant, je ne peux pas te parler quelque chose. J'ai pris alors le téléphone, j'ai appelé l'assistante sociale. Je lui dis, oui, j'ai rendez-vous à l'hôpital mardi, je suis en train d'arriver à Lyon lundi, je ne sais pas où dormir. La femme de Stéphane m'a mise dehors. Donc quand elle m'a mise dehors, je ne pouvais même pas venir te voir. Donc je te prie que tu arranges un coin dans ton bureau, je veux me coucher là-bas parce que je ne sais pas là où je vais dormir avant d'aller au rendez-vous à l'hôpital. Et quand je lui ai dit ça, elle dit, je veux prendre le train dans 1 heure. Non, c'était dimanche. J'ai dit, je prends le train lundi. Il dit, et tu arrives à Lyon à quelle heure? Je lui dis à 13h45. Elle me donne comment je veux marcher pour arriver à son bureau. Nous voilà, j'arrive. Je marche, j'arrive dans son bureau. Et la plus grande joie que je ressens en ce temps-là, dans tout ça, je n'étais ni découragée, ni trop affectée, ni trop même malade, mais j'avais une force surnaturelle. J'arrive dans son bureau, elle appelle le 115. Me voilà qui suis logée au 115. Et c'est dans le 115 que j'ai rencontré une petite fille. Je l'ai vue comme ça, elle s'est avancée vers moi, parce que là-bas, tout le monde est distant. Mais elle s'est avancée vers moi. Moi aussi, je suis partie vers elle. Je lui ai dit, ma petite fille, tu es Camerounaise? Elle dit, oui. J'ai dit, moi aussi, je suis une maman Camerounaise. Donc, ce jour-là, on a pris nos lits côte à côte. Et je lui ai dit que ça te ferait quoi si nous prions avant de dormir? Elle a dit, maman, tu es une chrétienne? J'ai dit que oui. J'ai dit que je ne parle pas de chrétienne de lèvres. Je suis une chrétienne convaincue. On a commencé à prier. Et j'ai même commencé à lui faire certains enseignements. Elle me dit que, qu'est-ce que ça te ferait si je te montre un enseignant de la parole de Dieu? Je lui dis qu'il va m'enseigner quoi? Moi-même, j'ai lu la Bible de Genèse Apocalypse. De Genèse Apocalypse, combien de fois? Moi-même, je connais la parole de Dieu. Elle dit, la parole de Dieu dit de ne pas juger les gens. Je dis seulement, n'est-ce pas, si tu montres que ça ne te plaît pas, tu laisses, non? Je dis que je lui pose d'abord la première question. Il est de quel pays? Il me dit, il est Congolais. Je dis, les Congolais, les Djobala, les gens qui mettent toujours leurs pantalons sur la poitrine, les gens-là, est-ce qu'ils servent même Dieu? Ils sont pleins au Cameroun, c'est des fausseurs. Ils ont pris l'argent de tous les Camerounais. Ils se passent pour des prophètes et de ceci, cela. Moi, je ne veux pas parler avec les Congolais. Elle me dit que te voilà alors, tu dis que tu es chrétien et tu juges, tu condamnes même les gens sans les avoir rencontrés. Est-ce que c'est bien ce que tu es en train de faire? Donc quand elle m'a dit ça, elle m'avait cloué au mur. J'ai dit que bon, moi je vois que l'homme la veut te détourner de la voie de Dieu parce que je vois que tu aimes Dieu. Je veux qu'il veut te détourner de la voie de Dieu. Mais je veux parler avec lui à condition que tout ce qui va me parler, qu'il appuie par la parole de Dieu. Parce que s'il n'appuie pas par la parole de Dieu, moi je veux couper court. Et d'ailleurs même, je m'en vais lui dire qu'il faut qu'il te libère pour que tu suives Dieu. Voilà, elle me dit, bon, donne-moi ton numéro, je veux... voilà son numéro, tu l'appelles seulement, tu lui dis que tu n'as pas l'argent, c'est lui qui va t'appeler. C'est là, alors, où j'ai commencé à appeler le frère Auguste. Même au départ, je n'acceptais pas qu'il me parle. Je trouvais toujours quelqu'un qui va me tromper. Je trouvais toujours en lui quelqu'un qui va me détourner de la voie que j'avais choisie. Je trouvais toujours qu'on va m'enlever l'amour de Dieu dans le cœur. Et je disais même dans mon cœur, celui-là maintenant ni dit ni offrande à lui donner une enfant. Qu'est-ce qu'il va recevoir de moi? Et là, un jour, il me dit, écoute-moi maman. Prends ta Bible, j'ai pris la Bible. Il dit, lis telle partie, je lis. Il me dit, lis ceci, je lis. Il dit, maman, écoute-moi très bien, la parole de Dieu est cachée. La parole de Dieu est cachée. Si tu lis la lettre tue. C'est le Saint-Esprit qui t'ouvre les yeux, qui t'ouvre l'esprit pour que tu comprennes la parole. Et quand il a dit ça, je me suis souvenu que quand Jésus était ressuscité, il a marché avec les disciples sur la route. Et eux, ils ne l'ont pas reconnu. C'est quand il leur a ouvert l'esprit, il leur a même expliqué la Bible. C'est même à peine qu'ils comprenaient. C'est quand ils voulaient déjà partir qu'il leur a ouvert l'esprit. Et ils ont compris que c'était, qu'ils étaient avec Jésus sur la route. J'ai commencé à réfléchir que hey, c'était l'homme qui s'est pris la vérité. J'ai commencé à suivre le frère. Mais c'était une guerre intempestible, parce que et le vrai problème dans tout ça, il se fâchait, il dit je ne t'appelle même plus. Moi-même je disais que oh Dieu merci, parce que moi je t'ai aimé et tu permets que partout où je pars on m'insulte. Il dit que je ne t'aime pas, il dit que je ne te connais pas, il dit ceci de moi, il me calomnie, il me juge, que c'est toujours toi qui permets que je souffre comme ça. Mais 30 minutes après, mon cœur était agité. Je voulais encore qu'il me parle. Je voulais qu'il m'enseigne. Je voulais qu'il me conduise. Et ça a fait toujours comme ça. Jusqu'à ce que j'ai accepté de me taire, de l'écouter. Et la parole a commencé à pénétrer en moi. Un soir, je me couche. Je veux fermer les yeux. Je vois une lumière aveuglante qui vient me frapper, et c'était à l'entrée de mon mur. Je vois la lumière, mais je voyais la lumière qui brillait. Mais moi, je n'étais pas dans la lumière. Je n'étais vraiment pas dans la lumière. Et je voulais entrer dans la lumière, je n'entrais pas, je n'arrivais pas. Le matin, je réveille le frère, je lui dis, j'ai fait une vision cette nuit. Il dit, Dieu s'est révélé à toi. Pourvu que tu t'humilies, tu acceptes et que tu le reçoives. Parce que tu peux le rejeter. Il s'est montré à toi. Il t'a pas obligé que tu l'acceptes. Tu peux le rejeter comme tu peux le refuser. Mais la grande joie aujourd'hui que mon cœur repent, c'est que je ne parle pas en langue, bien sûr, mais ce que Dieu a fait pour moi. Je préfère ne pas parler en langue par rapport à mes confrères, les consoeurs qui parlent en langue, avec une colère intempestible dans le cœur, avec une compatisse, je ne saurais comment dire, avec des caractères qui murmurent. Mais aujourd'hui, moi, je ne parle pas en langue. Mais l'Éternel a enlevé la colère dans mon cœur. Et c'était là mon problème. C'est-à-dire que j'avais une genre de colère que quand je voulais exprimer la colère, tant que j'ai pas parlé, même si on me met la corde au cou que tu ne parles pas, je dois parler. Mais je bénis Dieu parce que vraiment, non seulement Dieu m'a restauré, Dieu m'a guéri, il m'a délivré de tous les maux. Ce qui est encore plus merveilleux, ce n'est même pas la guérison physique, c'est la guérison spirituelle que j'ai reçue de la part de l'Éternel. La colère et l'envie même de vouloir voir le ciel, et l'envie même de vouloir vraiment dialoguer avec l'Éternel. Mais je sais qu'en moi, il y a encore des tares. Quand Dieu va enlever, les choses iront à merveille. Parce que aujourd'hui, j'ai un problème. J'ai vraiment un problème que moi-même je reconnais. La distraction. Je suis tellement distraite. Et je suis toujours en train de me dire, esprit de distraction, délivre-moi. Je ne veux plus, je ne veux plus. Ce que j'ai fait avec toi, c'est le passé. Maintenant, là, je ne veux plus. Je veux servir mon Dieu. je veux rester au pied du Seigneur, je veux l'écouter, je veux être à son service parce que c'est tout ce que j'ai eu dans ce monde. Parce que avant, j'avais une douleur très profonde dans mon cœur. Quand mes belles filles me détestaient tant, je disais toujours, Seigneur, c'est toi qui as voulu comme cela. Tu as mis le monde dans mon ventre. Est-ce que tu étais incapable de me donner aussi une fille pour qu'il s'occupe de moi quand je serai vieille? Donc, quand ma mère était vieille, mes frères n'ont pas pris part d'elle. Moi seule, j'ai amené ma mère à l'hôpital. Eux, même s'ils avaient quelque chose à donner, ils venaient tendre comme tu peux passer aussi en route, tu as compassion de quelqu'un et tu donnes, tu t'en vas. Mais ce n'était pas que ils viennent dire, je vais à l'hôpital avec maman, je veux aussi l'amener chez mon médecin pour qu'il essaie de voir. Non, elle n'avait pas connu tout ça. Donc, c'était moi, sa fille, qui l'avait fait, qui faisait tout ça. Et ma petite sœur, en ce temps-là, elle ne pouvait rien parce qu'elle n'avait ni moyens financiers, ni un bon ménage. Donc, elle ne pouvait rien et je ne pouvais pas me fâcher d'elle. Et aujourd'hui, ce qui me marque aujourd'hui, c'est comment est-ce que la colère est partie de moi. C'est comment est-ce que je ne peux pas me lever comme ça sans me fâcher. J'étais toujours quelqu'un qui était toujours en train de dire, « Oh, elle m'a fait du mal. Je n'ai jamais pensé mal à la personne. Comment quelqu'un peut me faire du mal comme ça ?» Et je pouvais passer des nuits et des nuits à pleurnicher sur mon sort. Mais quand j'ai compris que Christ, qui avait passé sa vie à nous faire du bien dans ce monde, n'avait jamais reçu un mot de bien, juste à ce qu'il aille à la croix. J'ai dit, bon, Dieu a voulu que ma vie soit comme ça. Dieu a voulu que vraiment je lui appartienne, que je n'ai rien qui me retienne dans ce monde. Il ne m'a pas donné une fille, mais aujourd'hui, je lui rends encore des multitudes de grâce parce que mes enfants n'ont fait que des filles et mes petites filles, même de sorte que quand je suis avec elles, si je veux m'en séparer, elles se mettent toutes à pleurer. Et je leur dis, dommage, dommage vraiment que je ne sais pas, c'est l'Éternel qui connaît, c'est Dieu qui sait toutes choses. Or, ma prière aujourd'hui devant l'Éternel, c'est qu'il me délivre de tout blocage. Parce que je ne sais pas ce que j'ai encore à faire dans ce monde que de servir Dieu. Je ne sais même pas ce qui m'attire dans ce monde que d'être au service de l'Éternel. Je suis ici à l'armée du salut. Je ne peux même pas recevoir les gens dans ma chambre pour partager la parole avec eux. Il y a eu même beaucoup de gens qui viennent me voir. Mais quand on essaie de parler, ils ne trouvent pas que c'est leur voix. Ils trouvent que vraiment, ce que je dis, je suis folle. Que je suis une folle, quoi. Et bon, ils viennent deux, trois fois, après ils disparaissent, les femmes comme les hommes. Après, je me sens seule dans mon petit coin. Mais je bénis toujours Dieu parce que toute chose, c'est lui qui manipule et dirige pour moi. Et je tiens très fort cette parole qui m'a été dite par le frère Augustin. Soit comme un morceau de bois dans le tumulte d'eau, dans de l'océan, dont les vagues te balancent à gauche, à droite, tu t'abandonnes entre les mains de Dieu. Et j'ai trouvé que c'est la seule chose que je peux faire maintenant. Donc j'ai fini, frère.